Bonjour, voit-on mieux le monde quand on voyage à cheval? La réponse est oui, du moins quand on lit le livre de notre invité Gaspard Koenig, livre intitulé « Notre vagabonde liberté à cheval sur les traces de montagne ». Un ouvrage qui emporte le lecteur sur les chemins de l'aventure et de la réflexion aussi. Comme son titre l'indique, le philosophe essayiste romancier a parcouru quelque 2500 km à cheval. Il a traversé la France pour se rendre à Rome, comme le fit Montaigne en 1580. Avec une humeur avide des choses nouvelles, comme l'écrit l'auteur des essais, « Je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche », ajoutait-il. Ce livre, celui de Gaspard Koenig, est un récit de voyage, un reportage sur la France d'aujourd'hui, loin de l'agitation parisienne. C'est aussi une méditation philosophique et un hymne à la nature, au cheval, à sa jument, destinada, à la relation entre l'homme et l'animal. Nous allons revivre ce périple avec lui dans ce nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez également retrouver sur le site de la radio, votre moteur de recherche préféré, en y tapant par exemple Idée et RFI. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes venu à pied?
Mais oui, hélas, j'ai pas trouvé d'écurie près de RFI, donc j'ai dû employer des moyens de transport plus conventionnels.
Ça reste à inventer, effectivement. Nous allons parler de ce beau livre que j'ai beaucoup aimé, qui nous apprend plein de choses. Il y a plusieurs façons de le lire, votre livre. Je voudrais le replacer dans le contexte général de votre travail, Gaspard Koenig. Un travail qui tourne toujours autour de cette idée de liberté.
Oui, et de la manière dont on peut vivre la liberté aujourd'hui, à la fois de manière politique, mais aussi de manière existentielle. Et depuis 5-6 ans, je fonctionne en allant sur le terrain, souvent en faisant des reportages, en partenariat avec le journal Le Point. Et donc, quand j'ai une idée ou que je veux expérimenter quelque chose qui tourne autour de la liberté, bah, je vais sur place. Et donc, j'ai été me faire enfermer dans une prison en Finlande pour tester les prisons ouvertes, qui sont ces prisons sans murs, assez étonnantes. Qu'est-ce que la liberté en prison? C'est quand même l'ultime paradoxe. J'ai été assisté à des assemblées de démocratie directe en Suisse. J'ai été voir la légalisation des drogues au Colorado, les expérimentations de revenus universels au Brésil, les entrepreneurs en Afrique, au Rwanda. Et puis, j'ai fait également un long voyage sur les traces, cette fois, de l'intelligence artificielle, un voyage autour du monde en avion. Et pour moi, un voyage un peu conduit au suivant. C'est une manière à chaque fois de me réformer moi-même et de penser quelque chose de nouveau. Et ce voyage sur l'intelligence artificielle m'avait un peu inquiété.
Il s'intitule « La fin de l'individu ».
Il s'intitule « La fin de l'individu », qui n'est pas très gai. Et finalement, ce livre-là pourrait s'intituler « Le retour de l'individu ». Parce que la manière dont les algorithmes sont utilisés commercialement aujourd'hui tend à construire un monde extrêmement normé, où tout est planifié, où tous les comportements sont anticipables, et où le libre arbitre, au fond, disparaît, où l'errance, l'erreur n'est plus possible. Et j'ai voulu justement faire un voyage qui aurait été l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire un voyage lent, en profondeur, totalement inattendu, et plein de surprises, de rencontres, d'aventures. En fait, c'est assez difficile de chercher l'aventure aujourd'hui parce qu'on peut toujours trouver le dernier désert que personne n'a exploré. Mais en vrai, tout est complètement cartographié. Et vous avez des guides touristiques partout, de la Mongolie au Sahara. Et en fait, je me suis dit, mais je vais aller près de chez moi, dans des paysages au fond assez familiers. Mais je vais utiliser un moyen de transport qui va rendre ce voyage exotique. Et au fond, c'est beaucoup plus exotique de circuler à cheval à 100 km de chez soi que d'aller dans le énième boutique hôtel à Sao Paulo ou à Shanghai où finalement tout se ressemble. Et ça permet évidemment d'installer une relation avec les gens qui est beaucoup plus vive, beaucoup plus directe, beaucoup plus humaine et beaucoup plus surprenante. Et je dois dire que c'était le projet, c'était un projet un peu fou évidemment. J'ai choisi comme guide Montaigne à la fois parce que c'est lui-même un philosophe de l'aléa, un écrivain de la digression, un voyageur du détour, donc c'est ça qui me parlait vraiment. Et puis, il a fait ce grand voyage. Et enfin, c'était un cavalier, ce qui, au fond, est assez rare à l'époque parce que le cheval est considéré comme un moyen de transport, alors que Montaigne, lui, a une vraie réflexion sur, et un vrai goût pour monter à cheval. Et il en parle, il aime être le cul sur la selle, je le cite. Alors dans des conditions tout à fait différentes d'aujourd'hui, puisque c'est plus facile de monter à cheval à l'époque, évidemment, il y a des chevaux de poste, on galope sur des lignes droites. Rien à voir avec les astuces qu'on doit trouver aujourd'hui pour suivre les petits chemins, éviter le bitume. Mais enfin, il y a ce rapport à l'animal qui transparaît. Donc pour toutes ces raisons, je me suis mis sur ces traces. J'ai essayé de reprendre toutes les étapes qu'il indique sur son journal de voyage. D'ailleurs, c'est amusant de voir que 4 siècles et demi après, toutes ces villes existent toujours. Et dans beaucoup de cas, les paysages qu'il décrit ou les structures même des villes sont relativement inchangées, voire le caractère des habitants, notamment en Italie, où il déplore le manque d'hospitalité. Je le rejoins complètement. Voilà, et miraculeusement, ce voyage, il a eu lieu, mais il a demandé une grande préparation parce que, évidemment, on ne part pas à cheval comme ça. Il faut apprendre beaucoup de choses, beaucoup de techniques du voyage à cheval. Et c'est aussi ça, voyager, c'est apprendre quelque chose de nouveau, préparer. La préparation est souvent plus longue que le voyage, mais c'est ça qui le rend aussi plus intense.
Gaspard Koenig, nous allons donc partir avec Montaigne, mais avant, je vous propose de l'écouter, Montaigne, un extrait des essais. C'est le livre 3, le chapitre 9 sur les vanités. Ce sont des extraits groupés en un seul son. Je vous propose de l'écouter, Montaigne, lu par notre ami Sébastien Gédor.
Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche. Le voyager me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à former la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usances, et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif, ni travaillé, et cette modérée agitation le met en haleine. Je me tiens à cheval, sans démonter, tout coliqueux que je suis, et sans m'y ennuyer, 8 et 10 heures.
Ça y est, nous sommes sur la route et nous entendons le pas, les sabots de Destinada, votre jument. Votre livre est d'abord une rencontre avec elle, avec cette jument.
Oui, et d'ailleurs, pour reprendre le texte de Montaigne que nous venons d'entendre, le cheval est un formidable intermédiaire pour découvrir la nature et pour s'ouvrir au moment présent, ce que dit au fond ce texte de Montaigne. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le cheval permet tout simplement, Montaigne le dit de manière très prosaïque, de mieux voir, parce qu'on est en hauteur et les haies sont faites pour la taille humaine. Donc on voit plein de choses que les piétons ne voient pas. Mais aussi parce que le cheval est un peu comme un hôte qui vous présenterait à des convives, en l'occurrence les autres animaux, parce que le cheval est une proie. Donc il n'effraie personne, il est accepté dans les sous-bois. L'homme est un prédateur, donc son odeur est anxiogène pour les animaux. Mais l'odeur du cheval couvre celle du cavalier. Et donc, vous voyez, en fait, des renards, des écureuils, des biches, de très très près, parce qu'ils ne s'aperçoivent de votre présence qu'au dernier moment. Et puis, le cheval est un peu presque un modèle, parce que il ne se projette pas dans l'avenir. C'est pour ça qu'il a une mémoire extrêmement forte, en fait. Parce que quand on est dans l'instant, on s'en rappelle. Ça, je l'ai vraiment vécu parce qu'en refaisant mon voyage a posteriori, quand je suis rentré chez moi, j'ai refait tous mes chemins pour faire une carte très précise ou un 25 millième des endroits par lesquels j'étais passé et l'offrir d'ailleurs au lecteur. Et je me suis aperçu que je me rappelais de tout. Je pouvais prendre n'importe quel chemin sur la carte et j'avais des images, des odeurs qui apparaissaient, tout simplement parce que j'étais dans un flux, j'étais dans le moment présent. Et comme dit Montaigne, c'est le meilleur moyen de ne pas s'ennuyer. Et Montaigne a des réflexions tout à fait passionnantes sur l'ennui. Qu'est-ce que l'ennui ? Quand on est dans le métro, qu'on a un quart d'heure, qu'on doit arriver à une station, et que pourtant on a plein de sollicitations, on regarde son portable, on a des messages, on regarde des infos, pourtant on s'ennuie. On s'ennuie parce qu'on a un but et que le trajet est une perte de temps par rapport au but qu'on veut atteindre. Et de même, Montaigne dit, on s'ennuie quand on est à cheval ou à pied, on s'ennuie en ligne droite. Pourquoi on s'ennuie en ligne droite ? Parce qu'on voit l'objectif et que chaque pas semble une soustraction par rapport au dit objectif. Alors que quand on est dans un sous-bois, dans un chemin qui serpente, qu'on ne voit pas sa destination, eh bien du coup, on est complètement ouvert au moment présent. Et je dirais que ça s'applique aussi à la vie en général. Ça, Montaigne le dit de manière aussi très claire, qu'il vit sa vie comme une journée à cheval. C'est-à-dire que si on a des objectifs, on va passer sa vie à s'ennuyer pour les atteindre. Et si on considère ces objectifs comme un simple prétexte, on va commencer à jouir véritablement de son existence.
Donc il faut en plus, Gaspard Koenig, éviter la ligne droite. Autant que faire ça.
Éviter la ligne droite et éviter le bitume. C'est deux conditions qui ne sont pas toujours remplies, parce que quand vous traversez le Berry, la Beauce, la Brie ou la Champagne Pouilleuse, vous avez quand même beaucoup de lignes droites. Ma chance, c'est que j'étais passé au moment des chaumes, dans ces grandes régions céréalières, et que donc je pouvais tout à fait légalement d'ailleurs traverser les champs, les chaumes, et naviguer à vue comme un marin sur une mer qui était la mer jaune. Des blés coupés.
Avant de prendre la route et de parler de ce parcours, il y a d'ailleurs une carte très claire dans votre livre, Gaspard Koenig. Je reviens à votre cheval, à Destinada. Il vous a fallu faire connaissance avec elle.
Oui, alors...
Et réciproquement.
Oui, c'est très compliqué, je trouve, la relation avec un cheval. C'est une jument que j'ai achetée pour ce voyage, donc je me suis entraîné avec elle, mais je la connaissais depuis peu. Et quand on est parti ensemble le premier jour, j'avais un peu l'impression d'un mariage arrangé, où au fond, on était parti ensemble pour 5 mois, mais sans trop se connaître et oui. Sans trop savoir ce qui nous attendait. Donc on s'observait l'un l'autre avec un peu de méfiance. Et je pense que ce qu'il faut faire pour bien approcher la relation au cheval et à l'animal en général, c'est d'abord avoir la discipline de s'affranchir de tous nos réflexes anthropomorphiques. Quand le cheval s'en va, quand il ne vous laisse pas monter dessus, quand il vous marche sur le pied, il n'est pas méchant, il n'est pas gentil, il ne vous en veut pas, il ne vous aime pas. C'est une autre dimension. On ne peut pas plaquer les sentiments humains sur l'animal. Donc il faut faire table rase de tout ça et commencer par un rapport très clair et très transactionnel. Je lui offre la sécurité et la nourriture, elle m'offre le transport. Et petit à petit émerge évidemment une autre relation, une communication dont Montaigne parle déjà, parce que l'Apologie de Raymond Sebon dans les Essais, c'est le premier grand texte antispéciste, pourrait-on dire, en tout cas cité comme tel par Peter Singer, construit justement une communication directe entre l'homme et l'animal, un dialecte particulier, comme dit Montaigne. Et ce dialecte, voilà, il émerge petit à petit ça se fait par moments. Il y a eu des moments de tendresse parce qu'on avait vécu des journées difficiles et qu'on est véritablement, le soir, à l'étape, tombé dans les bras l'un de l'autre. Et on est resté un quart d'heure à se consoler parce qu'il y avait eu des moments de stress. Et puis, il y a eu un moment très important où j'ai cessé de la tenir. J'ai cessé de tenir les rênes. C'est-à-dire que moi, je marchais à pied la moitié du temps et à cheval la moitié du temps. C'est à peu près comme ça qu'on peut faire pour soulager au mieux le cheval et avancer néanmoins. Et quand j'étais à pied, au début, j'avais les rênes en main. C'est des rênes Camargue, c'est des longues rênes tressées, donc c'est pas une grande contrainte. Mais enfin, ça me paraissait normal de tenir mon cheval comme on tient son chien en laisse. Et puis un jour, j'ai glissé les rênes sous le pommeau de la selle et j'ai laissé marcher à côté de moi. Et pas parce que tout d'un coup je me suis dit « Allez, je vais essayer, je vais lui faire confiance. » Parce qu'à un moment donné, la question ne se posait plus. C'est comme si vous êtes en balade avec un ami, vous vous dites pas, il va s'enfuir dans la forêt, il faut que je l'attrape par le bras. Ça vous paraît évident qu'il va marcher avec vous. Et là, ça me paraissait évident. Mais pourquoi donc s'en ira-t-elle et où ? Impossible à imaginer. Et puis après, il y a des communications plus, j'allais dire, prosaïques, comme le moment où je la sifflais, où elle me répondait en hennissant, pour m'indiquer où elle était, ou pour me répondre, tout simplement. Donc, c'est des petites paroles qui émergent. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'après le voyage, elle a retrouvé son indépendance. Le cheval, c'est pas un chien. Il ne s'attache pas à vie, à son maître, entre guillemets. D'ailleurs, il n'a pas de maître. C'est plus comme un chat. Et donc, au retour, si elle est contente dans son pré, dans son troupeau, et que l'herbe est meilleure, et que certainement les conditions sont plus reposantes, je ne pense pas qu'elle m'attende, qu'elle s'ennuie ou qu'elle me retrouve avec plaisir. La relation, elle est toujours à reconstruire, en fait. Et
c'est elle vous reconnaît quand même
aujourd'hui. Oui, ils ont une mémoire extraordinaire. Elle me reconnaît. Mais enfin, au début, elle me reconnaissait, même tourner les fesses. Elle n'avait aucune envie de repartir à Rome.
L'ingrate.
Voilà. Non, au contraire, elle savait qu'elle était beaucoup plus heureuse là où elle était. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se vexer. C'est en fait, quelque part, ça pourrait être un modèle aussi pour nos relations humaines. C'est-à-dire qu'on n'est pas liés l'un à l'autre pour toujours. On n'a pas cette relation de fidélité absolue. C'est quelque chose qu'il faut constamment reconquérir, il faut constamment convaincre l'autre, et quelque part c'est plus instructif.
Alors, venons-en à ce voyage. Et d'abord, pourquoi Montaigne a-t-il, un jour de juin 1580, quitté sa fameuse tour pour se rendre à Rome, et par des chemins pour le moins détournés, hein. C'est pas, il n'y a pas une route directe entre Bordeaux, enfin l'Aquitaine et Rome. Il y a tout un périple que vous remontez la France, de l'Aquitaine en passant par le Périgord, le Limousin, le Berry, la Sologne, Orléans, la région parisienne, et puis là vous bifurquez vers l'Est, vers Épernay, vous allez ensuite en Allemagne, etc. etc. Pourquoi a-t-il fait ce voyage, Montaigne?
Bon, alors d'abord, il faut avouer, puisqu'il le dit lui-même, vous savez que dans son intérêt des essais, c'est qu'il expose aussi tous ses défauts et tous ses vices.
Eh oui, avec franchise.
Et il dit qu'il voulait fuir les épines domestiques, qu'il en avait un peu marre de son foyer, de son château, de ses champs, de ses gens, etc. Et il avait envie de prendre le large, très clairement. Mais il y a une deuxième raison plus profonde, c'est qu'il vivait une époque très perturbée, un peu comme la nôtre, une époque où il y avait une épidémie, la peste, et des tensions civiles très fortes, puisque c'était les guerres religieuses entre protestants et catholiques. Et il avait envie d'aller en fait dans le cœur du chaudron, de comprendre ce qui se passait, en prenant des risques d'ailleurs, parce qu'on le voit traverser des zones pestiférées, il se voit interdire l'accès à certaines villes, il doit montrer l'équivalent d'un pass sanitaire pour rentrer dans d'autres. Mais bon, donc il prend un risque sanitaire, il y va. Il prend évidemment un risque physique de sécurité très grand, parce qu'à l'époque, traverser la France, c'est compliqué. Il y a des brigands, il y a des bandes armées. C'est pour ça qu'il part avec d'autres cavaliers qui sont eux aussi en armes pour se battre. Il participe à une bataille sur le chemin pour le roi Henri II. Donc, c'est assez... il sait exactement où il met les pieds et les dangers qu'il encourt. Mais il passe par l'Allemagne, parce qu'il veut comprendre justement ce que pensent les protestants. Et très clairement, dans son récit, on le voit parler aux zwingliens, aux luthériens, aux calvinistes, rapporter un peu tout ça à Rome, au pape, et ensuite au roi, à l'intelligentsia française, pour ainsi dire. Et donc, c'est quelqu'un qui va au contact des gens qui ne pensent pas comme lui. C'est ça la leçon à retenir. Et qui veut les comprendre sans les juger, et qui déteste les gens qui ont des opinions trop tranchées, et qui essaye, à chaque fois qu'il arrive dans un pays ou dans un foyer, de s'intégrer, c'est-à-dire par exemple, il apprend l'italien en Italie, il s'habille comme les Allemands quand il est à Augsbourg, en mettant le même bonnet fourré. Voilà, il essaye de s'approprier les coutumes du pays, parce qu'il prend, comme cet extrait nous l'a rappelé, plaisir dans la variété.
Avec une humeur avide de choses nouvelles et inconnues.
Voilà. Et donc, il s'autorise aussi les détours. Et effectivement, c'est un chemin qui passe par l'Allemagne, parce qu'il voulait passer par l'Allemagne. Mais c'est un chemin aussi qui serpente de manière très étrange sur la carte, parce que bah, tout d'un coup, on l'a invité quelque part, ou bien il a envie de revoir un lieu par lequel il est passé. Ça rend fou ses compagnons de voyage qui veulent arriver, mais lui dit « Mais non, mais la destination, c'est le prétexte, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant quand on voyage, c'est de voyager. Et donc, une journée où je suis revenu sur mes pas, à partir du moment où j'ai vu des choses nouvelles, eh bien, c'est une journée productive, même si, au fond, j'ai avancé de 2 kilomètres. » Donc il se laisse aller, il fait des grandes pauses, notamment pour prendre les bains, puisqu'il avait, comme il le rappelle aussi dans ce texte, des maladies de la gravelle et donc des coliques extrêmement violentes. Moi aussi, j'ai été prendre les bains, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, c'est une question que j'allais vous poser, Gaspard. C'est que vous parlez aussi de l'exercice, de la physique qu'ont constitué ces 5 mois. Ça a été parfois très difficile. Et pour Destinada, et pour vous, physiquement.
Oui, alors c'est un exercice de dépouillement d'abord matériel, parce qu'on part avec très très peu de bagages, littéralement avec un change, et c'est tout, pour que les kilos soient aussi réduits que possible sur le dos du cheval.
Vous avez perdu des kilos aussi.
Et moi, j'ai perdu des kilos, ce qui a soulagé ma jument, mais elle aussi en a perdu, donc ça n'arrangeait pas nos affaires. J'ai perdu 15 kilos en tout, j'en ai repris 5, mais effectivement. Mais le corps comprend très vite ce qu'on exige de lui. Il comprend que ça va être une épreuve d'endurance. Et en 3 semaines, ils le font. Et ensuite, ils se stabilisent. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est aussi un dépouillement, quelque part, un dépouillement de tout ce qui est superflu, alors côté matériel, mais aussi côté de la graisse, tout ça. On n'a plus que le strict nécessaire. Et c'est quand même un voyage qui est... effectivement plein d'obstacles et de risques, et on est tout seul pour les prendre. Parce que...
Ça, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'homme seul, enfin, en l'occurrence avec son cheval, face aux risques, y compris dans des situations très, très concrètes. Par exemple, vous avez le vertige, vous devez passer, à moins de faire un détour de longs kilomètres, par un pont qui vous semble un peu dangereux. Et ben, la question est très simple, mais importante. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?
En fait, on retrouve vraiment l'exercice...
Face à soi-même. Hein.
Ouais. Et on retrouve l'exercice du jugement. On s'aperçoit qu'à cheval, on est libre parce qu'on est un peu hors de toute réglementation, complètement libre. Mais en même temps, on est du coup complètement responsable. Quand vous êtes à vélo, on vous dit vous pouvez passer ici, vous ne pouvez pas passer là. Quand vous êtes, tout est à peu près normé. Et éventuellement, vous pouvez vous retourner contre quelqu'un, contre la puissance publique, si l'indication était mauvaise. La personne vous a demandé de passer à cheval. Vous vous trouvez face à un pont un peu branlant, mais qui est quand même à 4 mètres du sol, où les piétons circulent sans problème. Un cheval, c'est 500 kilos. Donc 500 plus, disons, 100 avec moi et les bagages, c'est 600. C'est vraiment une grosse différence, c'est 6 fois plus. Et là, vous êtes tout seul et c'est une question de vie ou de mort. Si le pont craque, vous êtes mort, globalement. Et pourtant, c'est pas des endroits qui paraissent risqués. C'est des endroits où on passe en marchant sans même les remarquer. Pareil, quand vous avez des barrières extrêmement serrées, vous savez, ces chicanes pour empêcher les motocyclettes de passer. Bon, est-ce que vous décidez de risquer le coup en sachant que si le cheval se retrouve coincé entre ces deux barrières et qu'il s'affole, là, ça peut faire des grands dégâts parce qu'un cheval affolé, il met tout par terre, et y compris lui-même. Ou enfin, dernier cas de figure, quand vous êtes sur une très grosse route, une très grosse nationale, il y a des camions, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous mettez dessus en ralentissant le trafic avec les gens qui klaxonnent derrière vous pendant le temps de passer le pont, par exemple ? Est-ce que vous mettez sur le bas-côté en sachant qu'il y a un fossé, que c'est glissant, que c'est compliqué, que vous ne savez pas où vous mène la barrière de sécurité ? Tout ça, vous n'avez pas d'indication. Et donc, c'est l'exercice du jugement. Et j'ai appris, en fait, la prudence. Vous savez, on est dans une société où on dit toujours, il faut prendre des risques. Bon, il faut prendre des risques parce qu'on a tellement d'assurance qu'au fond, on peut toujours prendre des risques. Et là, au fur et à mesure, j'ai appris à faire quelque chose qui est cognitivement très difficile pour l'esprit humain, à couper ses pertes. C'est-à-dire, on commence une voie qui semble incertaine, mais qui est un petit raccourci. On voit que ça devient difficile, et ben on ne s'entête pas. On fait demi-tour, alors que faire demi-tour, c'est compliqué psychologiquement. On se dit non, je préfère la prudence de faire demi-tour. Je sais que ça va me coûter exactement 30 minutes et 3 kilomètres, au risque de continuer et de me retrouver dans une situation encore pire. Et donc, peu à peu, on devient prudent. Et je me rappelle ce pont, par exemple, dans la forêt allemande. C'était compliqué parce que la nuit allait tomber, donc il y avait plein de paramètres en jeu, la jument était fatiguée, et j'ai pris la décision. Et les Italiens de l'autre côté du pont me disaient « Vieni, vieni, vous n'avez pas de problème, viens, et hop !» Et j'ai pris la décision de faire 10 km de détour, parce que j'étais quasiment au sortir de la forêt, qu'il n'y avait pas de chemin de traverse, 10 km de détour pour revenir juste au point d'arrivée, donc c'est extrêmement frustrant, parce que j'ai estimé que c'était un risque trop important. Et ça, peut-être qu'au début du séjour, du trajet, du voyage, je me serais dit, oh non, allez, on y va, ça passe. Mais on s'est pris tellement de coups que, voilà, on apprend à être un peu conservateur au sens du rapport au risque. Et ça aussi, c'est très instructif parce que bah, on est seul, on est libre et on est complètement responsable pour soi et pour l'animal.
Seul, libre, avec une préoccupation qui est celle de manger et qui est la préoccupation aussi de dormir. Donc des préoccupations très terre-à-terre, mais qui prennent une autre dimension.
Complètement, parce qu'on peut pas prévoir, il n'y a plus de relais, de poste aujourd'hui, et on ne peut pas tellement prévoir son itinéraire et ses étapes, surtout sur une distance aussi longue. Et puis le but du jeu, c'était aussi de laisser une grande place au hasard, donc de ne pas tout prévoir d'emblée. Et il y a un art du voyage à cheval, qui est pratiqué d'ailleurs par beaucoup de gens en France. Il y a une association des cavaliers au long cours, où il y a 100, 150 personnes qui en font un mode de vie, qui voyagent à cheval dans le pays. Et j'ai évidemment beaucoup parlé avec eux pour comprendre et pour anticiper un peu. Et en fait, bah, vous n'avez qu'une seule solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et que donc, il faut demander aux gens de l'aide. Vous êtes constamment en situation de vulnérabilité. Vous êtes constamment dans le pétrin, des problèmes vétérinaires, des problèmes de matériel, des problèmes de ravitaillement, des problèmes de gîte. Et au début, j'avais plein d'inhibitions. Je disais, excusez-moi, alors je vais vous expliquer ma situation, etc. Puis à la fin, en fait, je demandais de l'aide aux gens de manière beaucoup plus directe. Et donc, j'ai appris cette simplicité aussi dans le rapport aux êtres humains. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que quand vous demandez de l'aide de manière franche et directe, eh ben, vous l'obtenez. Et on a traversé tous ces pays différents pourtant, France, Allemagne notamment, en étant dépendant de la générosité humaine qui a à peu près toujours été au rendez-vous. Et donc, on me logeait, on m'ouvrait. On trouvait un voisin qui avait un prêt pour la jument, on me trouvait un bout de canapé, une tente, une grange, un tipi. Enfin, j'ai logé dans toutes les conditions possibles. Ma jument, elle, a été à traverser des salons, était dans des garages, dans des jardins de ville. Enfin, à chaque fois, c'était du bricolage. Mais c'est ce bricolage qui est extrêmement amusant et qui réveille aussi chez les gens une spontanéité et une joie, quelque part, de l'imprévu, qui rend les rapports humains simples et qui les place tout de suite sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça que c'est un privilège aussi assez rare de pouvoir s'incruster dans ces foyers sans tous les filtres sociologiques qui existent habituellement.
Cela fait du bien, Gaspard Koenig, d'entendre ce que vous dites, parce que nous sommes à une époque où, justement, on parle de repli sur soi, d'égoïsme, de communautarisme. Là, en bousculant un petit peu l'ordre des choses, vous avez découvert un peu une autre nature des personnes que vous avez rencontrées.
On réveille tout simplement un vieil instinct anthropologique qui n'a pas de raison de disparaître. Moi, je trouve énormément de continuité entre la nature humaine que décrit Montaigne et celle d'aujourd'hui. Oui, il y a des innovations technologiques qui intéressaient beaucoup Montaigne, d'ailleurs, à son époque. Mais au fond, on retrouve les mêmes caractères, la même description de l'âme humaine. Il n'y a pas de raison que les gens soient moins généreux aujourd'hui qu'autrefois.
Il faut gratter le vernis, quoi.
Et il faut susciter, il faut allumer l'étincelle, il faut trouver le moyen de ressusciter un peu tout ça. C'est ce que David Graeber, l'anthropologue que j'aime beaucoup, appelle...
Qui était venu dans cette émission il y a très longtemps.
Oui. Bah, vraiment, moi, c'est un de mes grands maîtres à penser et je regrette sa disparition trop jeune l'année dernière. Et donc, il appelait ça le communisme de tous les jours, le fait que finalement, la relation humaine la plus basique, c'est le don sans contre-don. C'est là qu'il retourne un peu l'ethnologie classique en disant le don n'appelle pas toujours le contre-don. Et moi, effectivement, j'étais reçu sans aucun contre-don. Je ne pouvais rien donner, je n'avais rien à offrir. Et pourtant, on me recevait avec une vraie gaieté, une vraie joie. Alors, encore une fois, il y a eu des passages plus compliqués que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'ai été moi-même très surpris et très ému de cet accueil. Et la relation d'hospitalité est une relation particulière. On m'a souvent dit, ah, mais moi, mes parents, ils accueillaient les vagabonds dans la ferme. Et c'est vrai qu'il y avait toujours une écuelle pour le vagabond de passage. Et j'ai compris qu'en fait, le vagabond, ce n'est pas le mendiant. Le vagabond, il a un statut social qui était d'ailleurs défini par la loi à l'époque. Il vit en nomade, il rend des petits services dans les endroits qu'il traverse. Et il est accepté comme tel, il colporte les nouvelles. Il fait complètement partie de la société. Et quelque part, c'est une forme de... Voilà, il introduit dans la société une sorte de possibilité de fuite, une zone grise qui lui redonne aussi tout son sel, qui la met en mouvement. Et donc, moi, j'étais de nouveau vagabond. C'est aussi pour ça que ce livre est intitulé « Notre vagabonde de liberté », qui est une expression que j'emprunte à Montaigne, mais ça tombait bien. Et ce vagabondage-là vous donne un accès très direct aux gens et vous permet de comprendre vraiment leur mode de vie, leur pensée, de manière sans filtre.
Écoutez RFI, vous écoutez Idée, un numéro consacré à un vagabondage avec Gaspard Koenig et Montaigne. Et ce qu'il faut noter, Gaspard Koenig, c'est que, et là c'est une autre lecture possible de votre livre, c'est que votre récit est un formidable reportage. À la fin du livre, vous vous demandez si vous êtes journaliste ou pas. En tout cas, vous êtes journaliste et vous faites un grand reportage sur ce plan-là, sur la France d'aujourd'hui.
Oui, parce que mon but n'était pas de prendre les chemins noirs. Et j'ai au contraire, en suivant la route de Montaigne, traversé les centres-villes de grandes villes, hein, Orléans, Meaux, Florence, tout ça à cheval. J'ai traversé les zones pavillonnaires, j'ai traversé le périurbain de la Seine-et-Marne.
Mon pauvre.
Hein, oui, c'était pas à cheval les moments les plus glorieux. Et puis, il n'y a pas d'herbe et il n'y a pas d'ombre dans ces endroits-là. C'était ça le plus terrible. J'ai traversé les grandes routes, je suis passé près des autoroutes. Et j'ai même traversé les banlieues, la banlieue de Meaux, par exemple, de Beauval. Donc j'ai été dans la France la plus contemporaine, et c'était ça le but, hein, c'était de l'observer entre les oreilles d'un cheval, mais d'observer la société d'aujourd'hui, de ne pas s'amuser à reconstituer le monde d'hier.
D'ailleurs, vous dites, Gaspard, que les régions, vous les voyez venir toutes aussi différentes les unes que les autres assez rapidement, quoi, hein, elles sont vraiment bien définies.
Bah, en fait, c'était une première leçon, c'est la profondeur des identités régionales. Je demandais chaque soir à l'étape, à mes hôtes, où suis-je ? Et on ne me répondait jamais par le numéro du département, encore moins évidemment par le nom de la grande région. On me répondait par la région, quasiment la région d'ancien régime, la vieille région. Donc ça peut être le Valençay, ça peut être le Berry, ça peut être la Champagne Pouilleuse, la Vosges, qui n'est pas la même chose que les Vosges. Voilà. Et en fait, ces identités-là, je les sentais sur mon trajet parce qu'il y avait des moments où inconsciemment, je me disais, on a changé de pays. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et rétrospectivement, je dis, ah oui, on a changé de pays parce que les tuiles sont différentes, parce que ce n'est pas la même pierre, parce que ce n'est pas la même culture, parce qu'on est passé en bocage, parce qu'il commence à y avoir du dénivelé, parce que la couleur des murs, des habitations a changé, ou leur architecture. Bon. Donc à chaque fois, je rationalisais a posteriori et je retrouvais effectivement ce découpage en grandes régions qui constitue exactement le découpage du livre. Vous voyez, le découpage du livre, ce n'est pas des régions administratives, c'est les régions telles qu'on me les a décrites et telles que je les ai vues, parce qu'il y a cette cohérence architecturale, de culture, aussi d'accent. Quand on passe, j'ai senti le passage de la langue d'oc à la langue d'oil quand j'ai rencontré dans la marche un paysan qui me parlait en roulant les airs. Et a posteriori, je me suis renseigné, je dis, ah oui, je suis dans la marche, c'est effectivement la limite de l'oc et de l'oil, et c'est pour ça que j'ai remarqué cet accent. Et en fait, les cultures, elles restent, malgré tout, extrêmement profondes. En Allemagne, c'est encore plus spectaculaire, puisque quand on traverse la Bavière, qui est pourtant une région très prospère économiquement, avec des PME qui exportent dans le monde entier, mais qui sont disséminées dans le territoire, ce qu'on appelle le Mittelstand, et donc ça permet au territoire de continuer à vivre. Et là, on change de dialecte encore, de vallée en vallée. Les enfants continuent, enfin les jeunes de 20 ans continuent à parler entre eux en dialecte. Et donc, on est dans un univers, au fond, beaucoup plus, aux racines beaucoup plus profondes que ce qu'on peut voir depuis Paris. Et ça, c'était quand même une première leçon et une leçon très, très positive et très joyeuse de ce voyage.
Paris, effectivement, semble très loin dans votre périple. Hein. D'ailleurs, on ne vous parle jamais, je fais l'association de Paris avec la politique, on ne vous parle jamais de politique, on ne vous parle jamais du gouvernement, on vous parle de la vie des pays dans lesquels vous vous trouvez.
Voilà, alors je prenais la méthode de Montaigne qui disait ce qui est intéressant dans les voyages, c'est de demander, de parler aux gens de ce qu'ils savent. Oui. De ne pas arriver en leur disant « Ah, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet ?» mais de leur demander comment ils vivent, pourquoi ils rentrent les foins en ce moment. Et petit à petit, vous tirez des fils et vous comprenez des choses plus subtiles, mais il faut vraiment commencer de la matérialité même de l'existence, commencer par cette matérialité. Et effectivement, j'ai pas entendu, alors c'est anecdotique, mais j'ai pas entendu le nom de Macron une seule fois, mais pas une seule
fois.
C'est
quand même un record.
En deux mois et demi de traversée de la France, ouais. Ça fait du bien. Moi-même, je m'étais coupé des infos, donc j'étais
ça peut faire du bien aussi.
Complètement pur de ce point de vue-là. J'ai jamais entendu parler des grands sujets macro qu'on nous ressasse sur les plateaux télé. En revanche, il y a quelque chose qui m'est apparu parce que tous les soirs, ça revenait dans la discussion, prenant des formes diverses en fonction des sociologies, des secteurs d'activité. C'est le rapport à la norme. Et ça rend vraiment les gens fous. C'est quand même pour moi, c'est en fait le sujet principal de liberté dans ce pays. Et on parle souvent de simplification et chaque programme présidentiel a son propre développement sur la simplification, mais c'est toujours vu comme un sujet périphérique une fois qu'on a fait tout le reste. En fait, non, je pense que c'est le premier sujet. C'est un sujet paradigmatique parce que c'est un sujet qui a des répercussions sur tout, sur la sécurité, sur le vivre ensemble, sur la confiance qu'on peut se faire les uns envers les autres.
Alors pour conclure ce numéro d'idées consacré à votre périple avec Montaigne, Gaspard Koenig, il nous faut parler de la dimension européenne de ce voyage, où l'on est déçu de voir que l'accueil qui vous a été réservé en Italie ne fut pas un accueil très chaleureux. Notamment oui, en Toscane.
Contrairement aux idées reçues, à mes propres idées reçues, les Allemands ont été absolument merveilleux d'hospitalité. Les Toscans, beaucoup plus compliqués. Je n'ai jamais été invité à dîner par une famille toscane. Et les rapports restaient très transactionnels. C'est 10 euros le foin, c'est 50 euros la nourriture. Et très cher d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. Après, je me suis un peu renseigné. C'est visiblement historiquement une région quand même assez fermée, assez hostile, assez fière, avec ces castellos qui se dévisagent les uns les autres, avec un rapport compliqué à l'étranger, avec une fierté culturelle très forte. Et tout ça mêlé aussi à l'habitude du tourisme, un tourisme souvent assez élitiste en Toscane, mais enfin un tourisme assez important quand même, où finalement les gens se mettent à jouer leur propre vie et à faire payer le spectacle qu'ils offrent dans le musée qu'ils se sont eux-mêmes construits. Et là, en parlant de normes, en Toscane, une grande partie qui est classée UNESCO, là, vous ne pouvez vraiment pas changer un volet. Donc, c'est évidemment très beau, mais ce n'est pas très vivant. Et pour cela, ça perd en authenticité, même si c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Après, il y a la question européenne en tant que telle. J'étais parti.
La liberté de circulation à l'intérieur de l'Europe.
Oui, et puis l'existence même de l'Europe. J'étais parti en me disant, je vais sur les traces de l'humanisme européen, parce que Montaigne, c'est les grands humanistes du 15e et tout ça. Je me suis aperçu que, du 16e, je me suis aperçu que d'abord, Montaigne n'était pas humaniste, parce qu'il ne pensait pas que l'homme devait être la mesure de toute chose. C'est ce qu'on a dit sur son rapport à l'animal, et qu'il n'avait pas le projet d'une société idéale qui allait toujours vers le progrès qui triompherait grâce à la raison et aux sciences. C'était un technophile, mais c'était aussi un sceptique. Et que deuxièmement, en fait, à l'époque, on traverse librement l'Europe précisément parce qu'il n'y a pas d'Europe. Et qu'il y a essentiellement des villes, des comtés, des principautés. Et qu'à l'inverse, aujourd'hui, où on nous dit « l'Europe, c'est la libre circulation », eh ben, on s'aperçoit à cheval qu'il n'y a pas encore la libre circulation en Europe. J'ai eu des problèmes très compliqués aux frontières, notamment entre l'Allemagne et l'Autriche, parce qu'il faut toutes sortes de certificats. Dès qu'on est avec un animal ou un cheval, il est considéré comme de l'import-export, donc évidemment en plein dans la norme, parce qu'évidemment les règles qui s'appliquent à l'import-export ne faisaient aucun sens pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin...
Non, mais le passage qui concerne cet événement est assez drôle. Oui. C'est Kafka, en fait. C'est Kafka. Oui.
Oui, complètement. C'était à Augsbourg avec la chef vétérinaire d'Augsbourg qui ne voulait absolument pas entendre parler de ce voyage et qui me demandait de faire des quarantaines interminables, voire de revenir à mon point de départ pour refaire une quarantaine, enfin, des choses complètement irréalisables. Et en fait, vous vous dites, mais finalement, moi, je... Et elle me dit, vous créez des problèmes. Et je dis, mais non, mais c'est vous qui créez un problème. Moi, je fais l'activité la plus bénigne et la plus saine au monde. Je voyage à cheval. Je ne dérange absolument personne. Les problèmes, c'est vous qui les avez fabriqués. Avec toutes ces lois, avec ces trucs que vous essayez d'appliquer en dépit du bon sens, alors que vous voyez bien que ça ne s'applique pas sur le terrain, ça ne s'applique pas à mon cas. Et donc, je pense qu'il faut aussi, vis-à-vis de cette pression bureaucratique, eh bien, retourner la charge de la preuve et dire, nous, on vit normalement, prouvez-nous que vous êtes nécessaire.
Il était plus facile, d'ailleurs il l'écrit, de voyager au temps de Stefan Zweig, que vous citez dans le livre, qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire que voilà, on se félicite d'avoir une Europe où on peut passer les frontières sans montrer son passeport, mais il faut quand même se rappeler que les passeports eux-mêmes sont une invention assez récente, essentiellement due à la Première Guerre mondiale, et que Zweig note dans son livre que Le Monde d'hier,
qu'il voyageait
sans documentation. Et ça, on a un peu oublié que le monde fut très ouvert.
Alors, il faut dire que le contexte était assez particulier, le contexte du voyage. C'était entre deux confinements, c'était en pleine épidémie de Covid. Donc, je ne sais pas si ça peut expliquer tout cela, mais
pas vraiment,
ça n'a pas arrangé, en fait.
Alors, j'ai eu de la chance quand même, parce que je suis parti à la fin de la première vague et j'ai dû revenir Enfin, je suis arrivé à Rome au début de la deuxième, quand la situation sanitaire devenait intenable parce qu'on recommençait à fermer les restaurants, les hôtels.
L'Italie est un pays durement touché. Oui.
Oui, et d'ailleurs, c'est en Italie qu'on voyait, autant en France et en Allemagne, je n'ai pas eu de problème lié à ça, à la crainte du Covid, autant en Italie, on voyait les gens qui marchaient tout seuls sur les chemins porter un masque. Et donc là, on comprenait qu'on était quand même dans une autre, dans un autre pays où le côté tragique de la maladie a été beaucoup plus, sans doute beaucoup plus fort, beaucoup plus mal vécu. Mais il faut quand même se rappeler que voilà, Montaigne il vit dans tant de peste et que à l'époque, eh bien, un virus, c'est un risque parmi d'autres, c'est le risque de mourir. C'est pour ça qu'il faut se préparer à la mort. Montaigne dit bien qu'il faut être toujours botté et prêt à partir. Et une fois qu'on a accepté cette perspective, on accepte davantage le risque, et on comprend qu'il ne faut pas arrêter de vivre par peur de mourir. Et ça, c'est une bonne leçon, je trouve, pour notre politique sanitaire.
Et d'ailleurs, en plein débat récurrent sur l'insécurité, vous expliquez très bien que vous n'avez jamais eu aucun problème pendant les 5 mois de voyage.
Oui, alors je ne suis pas complètement irénique. Je sais bien qu'il y a des forts problèmes d'insécurité, mais... J'ai aussi pu constater que, traversant la France pendant 2 mois et demi sans rencontrer un seul problème de cette nature, ce qui n'aurait pas été le cas au XVIe siècle, eh bien, ce sont des cas qui sont mis en valeur par les médias et qui créent aussi un sentiment d'insécurité qu'on ne voit pas toujours sur les territoires. Il y a des territoires qui sont durement touchés, mais il y en a d'autres qui vivent leur vie assez paisiblement. Et c'est vraiment une question d'éclairage médiatique. Ça m'a un peu fait penser à l'épisode des attaques de requins aux États-Unis juste avant le 11 septembre en 2001, où il y avait eu une panique sur les attaques de requins. On disait qu'il y a des attaques de requins partout. C'était la une des grands hebdos. Plus personne n'osait aller à la plage. Il y avait des photos des enfants déchiquetés par les requins, des interviews avec leur famille. C'était terrible. On ne mettait plus un doigt de pied dans l'eau. Ensuite, il y a eu le 11 septembre. Donc, tout d'un coup, on a parlé d'autre chose. Et on s'est aperçu rétrospectivement qu'il y avait eu exactement autant d'attaques de requins cette année-là, c'est-à-dire 4 ou 5, que les années précédentes. Et que donc, c'était vraiment une sorte de biais cognitif, médiatique, qui fait qu'on a mis ça en lumière et que tout d'un coup, c'est devenu un sujet de discussion et un sujet de psychose. Et je trouve qu'il y a quand même une manière de gérer les sujets par les médias qui créent de la peur au lieu de simplement exposer la réalité objective et statistique de la situation.
Nos auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin dans votre voyage peuvent se référer à un site. Je crois que vous avez créé un site sur votre voyage. Non ?
Voilà, alors il y a sur mon site gasparkoenig.com, il y a un onglet gasparkoenig.com/montagne qui se trouve aisément sur le site. Vous vous trouverez, alors c'est assez brut, mais c'est ma carte au 1/25 millième. Donc pour les randonneurs, ils peuvent refaire mon parcours. Sur tous les chemins que j'ai franchis, j'indique aussi les difficultés que j'ai rencontrées. Alors on va mettre là dans les jours qui viennent les gîtes également, enfin en tout cas ceux que je peux révéler. Et donc chacun peut refaire la route montagne à pied, à cheval ou en vélo. Je me suis dit que c'était pratique parce que vous savez, on essaye de mettre en place des routes européennes équestres, oui. Notamment la route d'Artagnan. Mais comme on fait ça depuis le haut, ça prend 15 ans parce que c'est négocié en Europe. Ensuite, ça passe aux différents États membres, ensuite aux régions, ensuite aux intercommunalités, ensuite aux communes. Et donc, en fait, ça prend des années de mise en place. Moi, le chemin que j'ai fait, je ne dis pas qu'il était toujours forcément légal parce que j'ai pris plein de chemins dont j'ignore franchement s'ils étaient privés, pas privés. Vous savez, des fois, vous ne savez pas trop. Mais enfin, je sais qu'ils passent. Je sais qu'il passe et que globalement, il dérange personne. Et donc, avec cette réserve, je pense que tout le monde peut maintenant refaire la route montagne parce que là, je l'ai faite depuis le bas, pas depuis le haut. Et elle est ouverte à la circulation.
Donc, à cheval.
Et à cheval, on peut refaire quelques jours, quelques semaines ou toute la route ou une autre route. Et je serais ravi que ceux qui font une autre route me la communique également, qu'on puisse rallier les différentes portions et recréer des itinéraires équestres en Europe. Quand on n'aura plus de pétrole, ça sera bien pratique.
Merci Gaspard Koenig. Votre livre s'intitule « Notre vagabonde liberté à cheval sur les traces de Montaigne ». Il est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde. RFI.